normaux, à qui il arrive des choses normales. Il n'y a que la fin qui va être un peu spéciale, on y arrivera. Mais c'est vraiment une parenthèse dans la grande histoire de la Bible où finalement on ne croise que des gens et des événements très importants. Et là, il y a quatre chapitres sur une tranche de vie, comme si on mettait un coup de projecteur sur des gens qui ne mériteraient pas a priori ce coup de projecteur-là, parce que, je le répète, ils ne sont pris dans aucun moment historique important, ils sont fils de rien ou filles de personne, et pourtant on va les mettre en avant. On comprendra à la fin, évidemment, la raison quand même pour laquelle ils sont mis en avant, même si c'est plus une conséquence qu'une cause, je pense. Alors je ne sais pas si, tout le monde connaît le nom Livre de Ruth, mais je ne sais pas si on connaît l'histoire, parce que ce n'est pas un livre qu'on lit très très souvent. Donc ce que je me propose de faire, c'est de découvrir avec vous le livre petit à petit et de démêler les tenants et les aboutissants de cette histoire à la fois très banale, mais qui, sur la fin, va devenir étonnante. Alors, il faut considérer ça, vraiment le voir comme un film. Tous les spécialistes sont d'accord pour dire que c'est un très beau livre en termes de littérature. Alors, évidemment, je ne lis pas l'hébreu, moi je fais confiance à la translation, c'est en anglais, à la traduction, merci. Mais même en français, on voit que ce sont des très belles pages. C'est pour qui aime les mots, qui aime les histoires, c'est extrêmement bien décrit, c'est très narratif. Et ça prend vraiment au cœur du lecteur, parce que ça nous amène petit à petit dans une histoire vraie, de chair et de sang, avec des personnes réelles à qui il arrive des choses que l'on peut tout à fait comprendre. Alors, c'est un livre qui mêle plusieurs destins, des destins de femmes, mais aussi des destins d'hommes. Et un peu comme dans un film de Claude Lelouch, vous savez, on part d'un, puis on passe à quelqu'un d'autre, puis on revient à la personne qui était là au début, et tout ça, mis bout à bout, fait une tranche de vie. Et le livre de Ruth, c'est ça, c'est une tranche de vie. Alors, ça commence très mal. D'entrée, l'ambiance est mise, on commence par le pire, et d'ailleurs, ce livre va être décomposé en deux parties. La première partie, c'est ce que j'appellerais la chute, et la deuxième partie, la renaissance. Et tout ça est lié autour du mal que font les hommes, volontairement ou involontairement. Quand je dis les hommes, je dis les mâles. Alors évidemment, l'époque n'est pas la même qu'aujourd'hui, heureusement pour vous, mesdames et mesdemoiselles, mais je pense que ce livre est quand même aussi l'histoire éternelle de la violence faite aux femmes. C'est peut-être le seul livre qui est vraiment centré sur cette violence-là, morale, presque physique, psychologique, sociétale, qui est faite aux femmes. Et à ce titre, il mérite vraiment qu'on s'y appesantisse. Et c'est pour ça que dire que c'est le livre de Ruth, c'est un peu un raccourci facile, parce que quand vous parcourez les ouvrages de référence, on va tout de suite parler de Ruth, en effet, cette femme courageuse, croyante, qui a la foi, qui est prête à tout abandonner pour ce nouveau Dieu, oui. Mais c'est presque un objet, une marionnette, entre guillemets, vraiment tout ça, hein, je ne dis pas du mal de Ruth du tout. La vraie héroïne de ce livre, c'est Noémie. Et on va le voir au fur et à mesure, je vais vous raconter l'histoire. Parce que la violence qui lui est faite à elle est terrible. Et c'est vraiment au prix de sa lutte, de son courage, de sa volonté, de sa ruse aussi, de sa connaissance du monde qu'elle habite, qu'elle va pouvoir s'en sortir, sortir Ruth aussi du mauvais pas, et de par sa volonté, de sa pugnacité, de créer les conditions d'une renaissance qui va venir jusqu'à nous. Et ça, c'est aussi une leçon que je tire déjà, c'est qu'évidemment, nous sommes dans les mains de Dieu. Dieu commande tout, mais on en a déjà parlé plusieurs fois, et évidemment plusieurs prédicateurs, c'est dans le cœur de beaucoup de prédications, c'est que nous sommes libres. Ce sont nos actes d'abord qui créent les événements. Alors, vu dans notre chronologie du temps, on a l'impression que que Dieu ne peut pas tout contrôler, que s'il contrôle, il y a des choses qui contrôlent mal. Mais en fait, oui, parce que lui a une notion du temps qui n'est pas la nôtre. Mais c'est nous qui, par nos actions, faisons avancer le monde, faisons avancer nos vies, faisons avancer notre vie. Et c'est l'ensemble de toutes ces actions qui, dans la main de Dieu, selon un plan qui nous échappe, parce qu'on n'a pas le cerveau pour comprendre ça, va faire qu'il y a un début, un milieu, une fin qui est dans la main de Dieu. Mais ce livre-là nous montre que c'est les hommes d'abord qui accomplissent le plan de Dieu. Alors, je vous ai dit que le début était magnifique. Vous allez voir, ça dure 5 versets. Et en 5 versets, si on a un peu d'imagination, on voit toute l'histoire arriver et les drames se superposer les uns les autres. Je vous demande de bien écouter, de ne pas m'écouter moi en tant que tel ou de ne pas me regarder, mais d'entendre les mots et d'imaginer les images qui vont avec. Au temps du gouvernement des juges, donc juste avant, les juges, on en a beaucoup parlé, c'est une fois qu'ils sont tous, les Hébreux sont installés dans la terre promise, ils sont en 12 tribus, et il y a des juges qui sont des espèces de pseudo-rois, mais pas des rois du tout, qui dirigent un peu, ils sont aussi prophètes. Et puis à la fin, si tu veux ne pas mettre le texte, s'il te plaît, par contre, je préférerais. Merci. Non, c'était très gentil, mais sinon ça fait double. Je préfère à la voix qu'aux yeux. Chacun fait un peu ce qu'il peut dans sa tribu, et c'est à la fin des juges, on en avait parlé il y a quelques semaines, que le peuple demande un roi, et qui est le roi, donc le premier roi, Saül, puis ensuite, etc. Voilà. Donc on est à cette époque-là, qui est un peu une époque chaotique. Au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour séjourner dans la campagne de Moab. C'est 160 kilomètres. Il faut faire le tour de la mer Morte pour arriver dans la campagne de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, le nom de sa femme Noémie et le nom de ses 2 fils Mahalon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab et ils y vécurent. Puis, Élimélec, mari de Noémie, mourut. Elle resta avec ses 2 fils. Ils épousèrent des femmes moabites, c'est-à-dire des femmes non israélites, étrangères. Le nom de la première était Orpa et le nom de la seconde Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Mahalon et Kilion moururent aussi tous les deux. Et la femme resta privée de ses 2 enfants et de son mari. En 5 versets, on a vu déjà toute la destinée de cette femme, donc Noémie, qui épouse un homme, Israël, eh bien, elle est contente. A priori, c'est un homme assez riche, on le verra plus tard. Famine, donc déjà exil. Ils partent avec leurs deux enfants. Là, ils épousent donc 2 femmes sur place. Le mari meurt et les 2 fils meurent. Donc voilà cette femme, déjà d'un certain âge, puisqu'elle a eu des fils en âge d'être mariés, et il y a eu 10 ans qui se sont passés, qui se retrouve veuve, avec sur les bras 2 belles-filles, en plus des belles-filles étrangères à sa propre religion. Et elle-même, du coup, devient une étrangère sur le sol qui l'a accueillie. On voit que l'ambiance première n'est quand même pas tout à fait sympathique, et c'est ce qu'on appelle une destinée ratée. Cette femme, elle a des raisons de se dire « j'ai vraiment pas de chance ». J'étais forcé de quitter mon pays. En plus, mon mari meurt rapidement, mes 2 fils meurent et je me retrouve avec 2 belles-filles. Et vous remarquerez que ses enfants n'ont pas eu d'enfants. Donc elle n'est même pas grand-mère. Elle n'a pas de descendance. Donc ça fait un cumul, si vous voulez, de tares à cette époque qui est assez impressionnant pour la pauvre Noémie. Alors évidemment, que fait-elle? Elle décide de faire ce qu'on ferait tous, je pense, à cette occasion-là. Elle dit « je vais rentrer chez moi », ce qui était chez elle, mais il y a déjà de longues années. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint de la campagne de Moab, car elle avait appris dans la campagne de Moab que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Elle sortit du lieu où elle vivait avec ses 2 belles-filles avec elle, et elles se mirent en route pour retourner au pays de Juda. Donc, elle rentre, veuve, sans descendance, avec en plus 2 brus sur les bras, sans doute forcément pauvre. Et là, elle a, jusqu'ici, elle a subi. Pas d'autre choix que subir. Et là, cette Noémie prend une première décision intelligente, forte, courageuse. Elle dit, écoutez les deux belles filles, là, moi je dois rentrer chez moi parce que j'ai plus rien à faire ici, mais vous, vous êtes d'ici, restez. Vous n'avez pas de raison de partir. Vous êtes chez vous, retournez chez vos mères, chez vos parents, s'ils existent encore, chez vos cousins. Moi, je dois rentrer, laissez-moi. Alors, on peut se dire que c'est peut-être aussi une manière de se débarrasser de ces deux belles filles. D'ici, je rentre, déjà que je suis bien, bien plombé par tout ce qui m'est arrivé. Mais si en plus, je reviens chez moi avec deux filles qui ne m'ont pas donné de petits-fils, et en plus des étrangères, ça ne va peut-être pas être le meilleur moyen pour moi de me réinsérer. Alors Noémie dit à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bienveillance avec vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous donne à chacune de trouver du repos dans la maison d'un mari. » Car, en effet, ces femmes étaient donc encore jeunes, suffisamment pour espérer retrouver un mari. À cette époque, ne pas avoir de mari, c'était quelque chose qui était très dur à supporter, puisque le mari donnait le statut, donnait la sécurité, donnait l'argent, etc. Alors, encore une fois, je ne vais pas faire des parallèles faciles. Hein. Évidemment, aujourd'hui, ici, au moins dans notre pays, tout ça n'a rien à voir, et le célibat des femmes ou le veuvage des femmes peut être tout à fait est accepté, n'est même pas commenté. Mais n'oublions pas qu'il y a quand même une forme de, je répète, de violence psychologique faite aux femmes qui ne sont pas exactement dans les clous, qui ne sont pas bonnes épouses avec les enfants qu'il faut. Enfin, quoi qu'on dise, on met toujours dans la tête des petites filles, puis des grandes filles, une forme d'obligation de se conformer à un certain statut social qui est certes tout à fait intéressant et enviable, mais qui n'a rien d'une obligation. Et je pense que la situation, c'est plus facile, quoi qu'on en dise, d'être un homme que d'être une femme. Il y a beaucoup moins de conditionnement conscient ou inconscient qui est mis autour de ce statut d'homme qu'il y en a autour de ce statut de femme. Donc, à ce moment-là, les deux belles filles se mettent à sangloter. Elles lui dirent « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Noémie dit « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi ? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris ? Retournez, mes filles. Allez, car je suis trop vieille pour appartenir à un homme. Et quand je dirai même, il y a de l'espoir pour moi quand cette nuit j'appartiendrai à un homme et que je me mette des fils au monde, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi ? Refuseriez-vous pour cela d'appartenir à un homme ? Non, mes filles, car mon sort est plus amer que le vôtre et la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. » Donc là, on est vraiment au fond du drame. La belle-mère dit à ses filles, partez, parce que moi je ne peux rien vous donner, je n'ai rien à vous offrir. Si vous avez une chance de vous en sortir, c'est en restant ici. À ce moment-là, il y a deux belles filles, donc il y a deux solutions qui se mettent en place. Ou je pars ou je reste. Ce qui est intéressant, c'est que les deux solutions vont être choisies. Orpa, la première belle-fille, embrasse sa belle-mère et part. Elle rentre chez elle, enfin elle reste chez elle dans son pays, mais elle va retrouver sans doute sa famille. Ce qui nous paraît être, moi ça me paraît être logique. La deuxième, Ruth, elle n'est pas de cet avis, et on y dit, Ruth s'attacha à sa belle-mère. Noémie dit alors, voici que ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux, retourne à la suite de ta belle-sœur. Et Ruth a cette réponse magnifique, ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas, où tu iras j'irai, où tu demeureras je demeurerai, ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu, où tu mourras je mourrai et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci et qu'il ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Ruth, elle décide de rester avec sa belle-mère, quoi qu'il arrive. Alors, on a mis ça, sans doute, peut-être, je te dis, je ne sais pas, en disant, bah oui, c'est merveilleux, elle s'attache, elle est prête à abandonner ses dieux, ses habitudes, sa propre famille pour aller dans un nouveau pays. Oui, c'est une version, mais on peut très très bien dire aussi qu'elle n'avait pas le choix. Peut-être qu'elle n'avait pas de famille, qu'il ne lui restait rien. Elle s'est dit, au moins avec ma belle-mère, j'ai quelqu'un qui m'aime, qui va s'occuper de moi dans son nouveau pays, parce que moi, si je reste là, j'ai personne chez qui aller. Ce n'est pas dit. Donc, mettre autour de Ruth, soudain, une espèce de nuage, de sainteté, je reste attaché à toi, parce que, oui, mais, et si on voyait l'autre côté ? Moi, finalement, j'ai plus que toi. Donc, je reste avec toi, et je m'accroche à toi, parce que, finalement, ma seule chance, vu la situation dans laquelle on est. Et c'est un peu... Je dis bien un peu corroboré par le verset suivant. Noémie, la voyant résolue à aller avec elle, cessa de lui parler. Genre, bon, bah, écoute, hein, qu'est-ce que je te dis ? Viens. Ce n'est pas non plus un sursaut de joie, de bonheur absolu, d'avoir sa bru attachée à elle. Moi, je préfère le voir comme ça, parce que je trouve que c'est plus humain, c'est plus vrai que une espèce d'aura, de rectitude, de droiture, et on suit, parce que l'amour, c'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie. Dans la vraie vie, j'ai dit que c'était possible, j'ai dit que c'était des hypothèses, d'accord ? Mais je veux pas qu'on dise que cette possibilité est la certitude. Je préfère toujours, quand on ouvre des voies, parce que l'humanité, c'est jamais quelque chose d'unique et de simple et en un seul bloc. Il y a toujours des, et on le sait très bien, nos forces intérieures, des raisons positives, des raisons moins positives. C'est pas simple d'être un être humain et on n'est jamais ou tout blanc ou tout noir. Donc, elle rentre chez elle. Et là, dernière humiliation, elles marchèrent toutes deux jusqu'à leur entrée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut étonnée à leur sujet et les femmes dirent « Est-ce là Noémie ?» Elle leur dit « Ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Comblée, j'étais partie, vide, l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Noémie ? L'Éternel a témoigné contre moi, le Tout-Puissant m'a fait du mal. » Ainsi revint Noémie et avec elle sa belle-fille, Ruth la Moabite, qui revenait de la campagne de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges. Donc, retour avec humiliation suprême, puisque tout le monde, c'est pas une grande ville, hein, et là, la reconnaît, mais c'est celle qui est partie il y a 15 ans, il y a 20 ans. Elle était partie parce que la famille ne plaisait pas, et puis elle revient, et puis là elle revient avec une belle fille, elle n'a pas d'enfants, pas de petits-enfants. Dire, c'est vraiment un retour, la queue entre les jambes. C'est extrêmement humiliant pour cette femme. Pas pour Ruth, parce que Ruth, personne ne la connaissait. Et pour Noémie, quelle destinée terrible à ce moment-là de son existence. Ce retour à la case départ est un échec. C'est un échec. Elle n'a que des souvenirs. Quelques-uns de bons, mais avec ce qu'on a eu précédemment, beaucoup de mauvais. Comment se reconstruire après un tel échec, à un certain âge en plus ? Et là, fin de l'acte 1, si je puis dire, de la première partie, qui est la partie, je vous ai dit, qui était la chute, avec tous ces hommes qui, contre leur gré, l'ont abandonné parce qu'ils sont morts. Et début de la deuxième partie, la Renaissance. Alors, la Renaissance, va se faire à travers un autre homme, qui s'appelle Boaz, qui est qui fait partie de la famille du défunt mari, Élimélec, qui est un homme riche, un homme reconnu, et qui va permettre à cette famille, à ces deux femmes de se relever complètement. Alors, tout ce qui va se passer maintenant n'est pas fortuit. Dans le chapitre 2, on va voir que Ruth, donc c'est des gens qui sont très pauvres, ces deux pauvres femmes, elles sont vraiment pauvres, et pour se nourrir, elles sont forcées même d'aller ramasser ce que les moissonneurs laissent derrière eux quand ils récoltent le blé, etc. Donc ça, on appelle ça les glaneurs, c'est vraiment le bas de gamme, c'est-à-dire quand on va derrière, moi je me souviens, pour essayer de ramasser ce qui reste, les fameuses miettes qui tombent de la table, vous vous souvenez, pour ensuite essayer d'avoir de quoi se nourrir. Donc c'est vraiment le bas de la société. En plus, ce sont des femmes, elles sont seules et elles sont veuves. C'est Noémie, si on lit bien le texte, qui met en place cette action-là pour que sa belle-fille ait une chance de retrouver une situation sociale correcte, c'est-à-dire un mari. Elle va envoyer. Alors, c'est très intelligent, parce que dans le chapitre 2, c'est pas noté de façon immédiate où la belle-mère dit à sa belle-fille « Va glaner dans ce champ-là ». Mais toute l'histoire, vu le nombre de champs qu'il y a, le hasard dans cette histoire n'a absolument pas sa place. C'est la belle-mère qui, par sa volonté, par son intelligence, va se dire « il faut que j'agisse ». Comment peut-elle agir? Il y a une loi en Israël qui disait que lorsque un homme mourait dans un couple, c'était le frère qui devait épouser la belle-sœur, lui faire un fils s'il n'y avait pas eu deux descendants, et donner à ce fils le nom du défunt mari pour que la descendance du mari puisse continuer. Et il y avait, ça s'appelait le système du rachat, c'était aussi valable, donc on rachetait en quelque sorte la femme, on rachetait les terres qui allaient avec, et ça permettait que tout le bien reste dans la famille. C'était pour ça en fait, c'était pour que les biens restent dans les grandes familles et de laisser personne de côté en obligeant les hommes à s'occuper des veuves et des biens qui allaient avec. Et Noémie, elle le sait très bien ça, puisqu'elle est de ce pays-là, ce que Ruth ne peut pas savoir. Donc que va-t-elle faire? Elle va dire à sa belle-fille, enfin elle va aller emmener ça à belle-fille, glaner dans un champ qui est évidemment le champ sur une belle figure d'homme, donc Boaz, qui va repérer cette jeune femme, dont on sait dans la ville que c'est une femme de valeur, une femme de qualité. C'est pas que je ne dis aucun mal sur Ruth, puisqu'il est dit au verset 11 du chapitre 2, « Boaz répondit à cette femme, « On m'a raconté en détail tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as abandonné ton père, ta mère et ton pays natal pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. » Et donc, il l'accueille, il donne des ordres pour qu'elle ne soit pas agressée. C'est dit dans le texte par tous les paysans, les servantes qui étaient là, parce que c'était un peu la vie de campagne, donc les filles pouvaient être un peu molestées, caressées. Là, elle est tout de suite mise sous sa protection. Et non seulement elle est mise sous sa protection physique, mais il l'autorise à glaner, et il l'autorise à venir se servir, à boire quand elle a soif, à même venir autour du repas improvisé pendant la moisson. Donc vraiment, il la prend en charge. Et Noémie, quand elle revient le soir, quand sa belle-fille rentre, il est dit, Ruth raconta à sa belle-mère ce qui s'était passé avec elle, puis elle dit, le nom de celui à qui j'ai eu affaire est Boaz. Noémie dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel qui n'abandonne pas sa bienveillance entre les vivants et les morts. Cet homme est notre proche parent, lui dit Noémie. Il est de ceux qui ont envers nous un devoir de rachat. Donc, elle dit à sa belle-fille, la personne que tu as rencontrée est la bonne personne, celle qui peut te sauver, celle qui peut nous sauver. Et elle lui donne le conseil suivant pour le jour d'après. Ma fille, je voudrais te procurer du repos pour que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes de qui tu as été, n'est-il pas notre parent? Or, lui-même doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi, parfume-toi, puis mets tes beaux habits et descends sur l'air. Ne te fais pas connaître avant lui, avant qu'il ait achevé de manger et de boire. Quand il ira se coucher, tu observeras à quel endroit il se couche. Ensuite, tu iras découvrir ses pieds et tu te coucheras. Il te dira lui-même ce que tu auras à faire. Et Ruth répondit, tout ce que tu m'as dit, je le ferai. Et donc, il était d'usage à cette époque, quand les moissons étaient terminées, qu'il y avait encore les grands tas dans le champ pour que les voleurs ne viennent pas, tout le monde venait passer la nuit autour des gros tas de foin, de blé, etc., qui avaient été pris. Enfin, de foin, non, mais de nourriture. Je ne suis pas un paysan, je ne connais pas l'agriculture. Donc, voilà, c'est plein de nourriture qui était là, les trucs, l'orge, le maïs, je ne sais pas, moi. Et on veillait là, même les propriétaires, tout le monde était sur le pont pour attendre que la nuit passe et que le lendemain on puisse aller mettre ça dans les silos, dans les greniers, etc. Et donc Noémie, elle connaît très bien, puisque c'était son pied, elle sait comment est-ce que ça marche, elle dit, il va forcément être au pied d'un des tas de blé, etc. Vas-y et couche-toi à ses pieds sous la couverture. Excusez-moi, moi je trouve ça extrêmement humiliant, encore une fois, ce que cette femme doit faire pour avoir le droit d'exister à nouveau. Elle aurait pu y aller, lui dire, mais écoute, non, tu vas te mettre à ses pieds, comme un chien, un petit chien. Et tu vas espérer que cet homme qui est bon va pas te violenter, va pas te maltraiter, puisqu'il t'a déjà reconnu une fois, mais va au contraire aller plus loin dans ce qu'il doit faire. Parce qu'il a une responsabilité, c'est de racheter la mort de ton mari, qui était mon fils en quelque sorte. Et c'est ce qui se passe. Ruth, encore une fois, obéissante, et là c'est une merveilleuse figure, hein, obéissante, pleine de confiance, alors qu'elle est chez un peuple étranger, encore une fois, et que elle pourrait se faire maltraiter, mais personne ne dirait rien. Ça serait passé par pertes et fracas. Elle fait tout ce qu'on demande, elle va se coucher aux pieds de cet homme-là, je pense dans un état un peu tremblant, et cet homme, heureusement, la relève et lui dit la chose suivante. Donc il lui dit: qui es-tu? Elle répondit: je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as devoir de rachat. N'oublions pas que tout est fait avec des volontés bien précises, dirigées par Noémie à l'arrière. Noémie, c'est le cerveau de l'histoire, et Ruth, c'est son arme, c'est sa James Bond girl. Alors je dis pas que c'est fait dans avec des mauvaises idées, c'est pas ça, mais l'être humain et nous dans nos vies, on a des obligations de réflexion, de savoir ce qu'on veut et comment on va y arriver. Et on peut très bien faire les choses et avoir des objectifs, des ambitions, tant que tout ça est fait dans ce qui nous semble être le plan de Dieu. Et là, le rachat, c'est le plan de Dieu, c'est prévu dans la loi. Donc avoir un plan, avoir une volonté, avoir une organisation, c'est bien, c'est légitime, c'est la preuve de notre intelligence, la preuve de notre savoir-faire, la preuve de notre humanité, si tout ça est utilisé à bon escient. Et donc, Boaz répond: « Sois béni de l'Éternel, ma fille. Cette dernière marque de loyauté vaut mieux encore que la première, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. » C'est vrai. Manifestement, Ruth a l'air d'être quelqu'un jeune et de qualité. Elle aurait pu peut-être essayer de se mettre avec quelqu'un de son âge, que Boaz, c'est de la génération du mari de sa belle-mère. Donc, c'est quand même l'âge au-dessus. Maintenant, ma fille, sois sans crainte, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car sur la place publique, chacun sait que tu es une femme de valeur. Maintenant, il est vrai que j'ai un devoir de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Et là encore, on tombe sur des choses qui sont précises, qui sont rigoureuses, qui sont légales. Cet homme-là est un proche, puisque c'est le grand-oncle, par alliance, mais il sait que légalement, il y a quelqu'un qui est plus proche de lui dans la lignée des droits de rachat, et lui ne veut pas se permettre de passer outre les droits de cette personne-là. Il aurait pu, parce que ça, donc il doit avoir, je sais pas, une soixantaine d'années, une trentaine d'années, il y a une belle fille qui lui tombe comme ça dans les bras, il dit bah, allons-y, profitons-en. Non, non, faisons les choses selon la loi de Dieu. Et donc, il dit: écoute, rentre chez ta belle-mère, et demain, on ira voir cet homme qui a un droit de préemption, si je puis dire, supérieur au mien, ou du coup antérieur, et on verra ce que l'on peut faire. Si il dit oui, ben écoute, je ne peux rien faire. Si il dit non, je te promets, c'est moi qui ferai ce que je dois faire avec toi. Et donc elle chez lui, et là Boaz, encore en homme de valeur, lui donne beaucoup de nourriture pour que sa belle-mère ne manque de rien pendant quelques jours. Chapitre 4, c'est l'épilogue. Et là, après toutes ces scènes qui sont des scènes intimes, c'est la grande scène collective, on est sur la grande place de Bethléem. Boaz, qui est un homme important, fait venir les anciens et fait venir Ruth et explique: voilà, j'ai un droit de rachat sur cette femme, je suis prêt à l'assumer, mais il y a quelqu'un qui a plus de droits que moi, qu'il vienne et qu'il assume ce droit ou non. On fait venir cet homme-là. Et cet homme va reconnaître le fait qu'il a ce droit-là, mais lui, il dit: si je fais ceci, je vais dilapider l'héritage de mes propres enfants. Puisque en fait, si on rachète cette personne, on rachète la terre, et si on fait un enfant à cette femme, la terre appartient à l'enfant de cette femme. Donc en fait, c'est un investissement à vide. Donc il dit: moi j'aurais donné de l'argent pour racheter, mais tout ce que j'aurais racheté finalement ne me reviendra pas, et mes propres enfants seront donc un peu perdants dans l'héritage plus tard. Donc, pour des raisons financières, il refuse. Ça tombe bien, Boaz peut à ce moment-là assumer son devoir de rachat, et il épouse donc Ruth. Alors, vous imaginez que derrière tout ça, Noémie, elle commence à revivre un peu, elle se dit, ça y est, ma belle-fille est casée, elle va de nouveau droit au bonheur, à quelque chose qui va être une vie normale pour elle. Elle, ça n'empêche pas que pour elle, à la limite, elle a été au bout de ce qu'elle pouvait. Forcément, elle se dit, en ayant une belle-fille, de nouveau mariée, etc., elle ne va pas m'abandonner, je vais pouvoir profiter de quelque chose avec elle. Et c'est là que l'intervention des hommes s'arrête. C'est-à-dire que Noémie, elle a fait le maximum qu'elle pouvait. Le maximum qu'elle pouvait, c'était s'occuper, faire tout légalement pour que Ruth, même avec des ruses, parce qu'elle l'a mis dans le bon champ, au bon endroit, elle l'a mis au pied, elle a tout fait, bravo, bien joué. Mais une fois que Ruth est mariée, eh ben, voilà, elle ne peut pas espérer plus. Et c'est là que Dieu intervient. C'est ça qui est riche. C'est que c'est pour ça que ça m'intéressait vraiment de parler de ces personnages-là. C'est que c'est vraiment un moment où tous les hommes font leur cuisine à eux, mais toujours dans la légalité du plan de Dieu, des lois de Dieu. Et après, Dieu voyant ça, lui peut inscrire sa propre histoire. Et l'histoire, vous la connaissez, c'est que Boaz et Ruth vont avoir un garçon. Donc ils vont donner une descendance à Noémie qui va elle-même s'occuper de cet enfant. C'est marqué, Noémie prit l'enfant et le mit sur son sein et ce fut elle qui l'éleva. Donc après toute cette chute terrible, la renaissance va jusqu'à le fait qu'elle peut de nouveau avoir un enfant qui est son petit-fils et s'en occuper. Et ce petit-fils, c'est pas n'importe qui, puisque vous le savez, ça va être le grand-père de David. Donc l'ascendant de Jésus. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que cette histoire de Ruth, qui est, je vous l'ai dit, une parenthèse dans ce monde des juges, des rois, des gens qui se battent, les prophètes, petite parenthèse là, cette tranche de vie qui aurait pu passer inaperçue, elle ne va pas passer inaperçue parce que tout a été fait pour que, de là, de cette volonté de Noémie, et associée à cette obéissance, à cette droiture de Ruth, on arrive à la naissance d'un enfant qui sera le grand-père de David, qui lui-même est l'ascendant de notre Seigneur Jésus. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ce mélange de ce que nos vies font, de ce que nos volontés mettent en place. Et à un moment ou l'autre, Dieu récupère ce qui a été fait avec droiture, avec intelligence, avec justesse, pour que son plan à lui fonctionne à une beaucoup plus grande échelle. Et quand on lit tous ces épisodes de tous ces personnages bibliques, on se rend compte à un moment ou l'autre que c'est toutes ces petites tranches de vie qui font à l'arrivée la grande histoire de notre humanité, qui est l'histoire de Dieu. Donc, livre de Ruth, oui, mais s'il n'y a pas Noémie, Ruth, elle n'existe pas. Il faut des Noémie, il faut des Ruth, il faut des Georgette, il faut des Vanessa, il faut des Luc, il faut des... Voilà, enfin tout le monde, quoi. On a besoin de tout le monde. Et chacun, à sa place, doit agir selon ce qu'il sait faire. Ceux qui sont là pour réfléchir, pour donner les tops, de donner les actions, faites-le. Ceux qui sont là dans un temps pour obéir, pour prendre les risques, faites-le. Si tout ça est fait avec droiture, avec dans le cœur la loi de Dieu que l'on connaît, on sait ce qui est bien et on sait ce qui n'est pas bien, forcément, à un moment ou l'autre, eux ne savent pas que leur fils et petit-fils va être l'ascendant du roi David, puis de Jésus. Mais nous, maintenant, on le sait. Donc, qu'est-ce que dans nos vies actuellement, de par notre volonté, mais notre volonté juste, vous ne savez pas ce que ça va donner dans 1, 2, 3, 4, 10 générations. Mais le livre de Ruth nous l'apprend. Et c'est en ça qu'il a sa place dans la Bible et qu'il est extrêmement enrichissant. Merci.